Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Pierre Gahungu.
Vous suivez bien la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal de ce mercredi 16 août 2023, dont voici d'abord les titres. Un homme a poignardé mortellement sa femme lundi, tandis qu'un autre a tenté de tuer sa sœur en incendiant sa maison mardi. Tout cela s'est passé dans la même commune de Sogwe, en province Muyinga. Et puis, des propriétaires riverains du palais présidentiel sont mécontents et ils l'ont fait savoir ce mercredi en organisant un sit-in devant le ministère de l'aménagement du territoire. Il s'agit de propriétaires de parcelles enregistrées en 2009 et qui n'ont toujours pas perçu leurs indemnités de délocalisation. Et enfin, la présidence de la République se montre trop gourmande en s'accaparant d'un budget qui monte de pratiquement 50% pour principalement les seules dépenses du chef de l'État. Vous aurez une analyse de Frédéric Bambouguignou-Villa, ancien vice-président de la République et président de la plateforme Sephora Arusha. À toutes, à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Une femme du nom d'Alexine Moussoukassoni a été tuée l'après-midi de lundi, poignardée par son conjoint. Cela s'est passé sur la colline Matiazo, zone Kiremba, commune Gasogwe dans la province Muyinga. Le mobile de ce meurtre serait un conflit de ménage, comme l'indique une source administrative locale. Une autre femme de la colline Kaguhu, de la même commune Gasogwe, elle, a eu plus de chance, puisqu'elle est sortie indemne la nuit dernière de l'incendie de sa maison. Un de ses frères serait l'auteur du dit incendie, selon une source locale. Les deux présumés coupables ont été tous placés en garde à vue au cachot de la police judiciaire de Gasogwe. Les détails avec Josephine Jones, Ondimana.
Alexine Moussoukassoni, 40 ans, mère de 8 enfants, a été tué l'après-midi de mardi, poignardé par son conjoint Jean-Claude Wigendako, alias Kabeba, enseignant à l'école fondamentale de Tchadzo, selon une source administrative locale. Wigendako a poignardé son épouse avec un couteau qu'il a arraché des mains des enfants vendant de la canne à sucre au moment où cette femme causait avec d'autres personnes, affirme la même source. Le mobile de cet assassinat est la mésentente qui caractérisait le couple depuis longtemps. Moussoukassoni venait de passer 4 jours en dehors du toit conjugal à la suite de cette mésentente, indique-t-on. Le présumé auteur de son meurtre a été placé en garde à vue au cachot de la police de Gasogwe après avoir été tabassé par des témoins ayant assisté à la scène terrible. Une autre femme de la colline Kaguru, dans la même commune de Gasogwe, a échappé à la mort la nuit dernière après que son frère ait incendié sa maison. Cette dernière a été complètement incendiée et tous les effets qui s'y trouvaient expliquent la même source. Le présumé criminel accusait sa sœur d'avoir mis au monde un enfant adultérin. Chabageni a été appréhendé et placé en garde à vue. L'administrateur de la commune, Gasogwe, Dudeniunizigye, conseille à la population de sa commune de se remettre à l'administration ou à la police au lieu de se rendre justice. La population, quant à elle, demande à la justice de sanctionner exemplairement ces deux hommes s'il s'avérait qu'ils sont coupables en vue de faire respecter la vie humaine.
Merci Josephine Jones Kondimana. Les propriétaires de parcelles dans la zone Gasenyi, à proximité du palais présidentiel, en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, ont fait un sit-in devant le ministère ayant en charge l'aménagement du territoire. Ils sont allés réclamer leurs indemnités. Selon Emmanuel Nyongabo, représentant des propriétaires de ces parcelles, certains ont déjà perçu leurs indemnités, mais d'autres non, et cela fait plus d'une année qu'ils ont été recensés pour les percevoir. C'est suite à la décision de les exproprier pour cause d'intérêt d'utilité publique. Ces propriétaires sont inquiets car ils n'ont jamais été mis au courant de l'état d'avancement de leur dossier. Selon Emmanuel Nyongabo, ceux qui ont été recensés en 2022 ont déjà été indemnisés, alors que ceux de 2009, eux, n'ont pas encore été régularisés. On l'écoute.
En fait, j'ai reçu beaucoup d'appels de la population ayant les parcelles à 60 hectares. Il y en a aussi qui m'ont visité à la maison, mais je n'avais pas une réponse à leur donner parce qu'ils demandaient quand est-ce que nous aurons les frais d'expropriation. Je n'avais pas de réponse. J'ai essayé de téléphoner les responsables qui étaient chargés de suivre notre question. Mais le DG n'a pas répondu au téléphone. L'assistant du ministre qui a répondu au téléphone m'a dit qu'eux, ils ont terminé à préparer ce qu'ils avaient à préparer et ils ont déjà donné le rapport.
Mais
former la population d'Ogasegne travaille dans presque tous les secteurs du pays. Je ne sais pas comment on peut acheminer un dossier de 160 hectares dans un ministère et qu'il n'y a personne qui sache où se trouve ce dossier. Nous avons essayé de chercher, nous ne savons pas où se trouve maintenant ce dossier et nous n'avons aucune réponse. Aujourd'hui alors, je les avais amenés pour qu'ils posent cette question aux responsables chargés de suivre ce dossier. Mais malheureusement, vous avez vu que la police et la documentation étaient là pour nous empêcher d'approcher au ministère. J'ai été trop déçu parce que je ne m'attendais pas à cette situation. Vous aviez vu qu'il y avait beaucoup de policiers. Alors, j'ai constaté qu'ils voulaient nous faire du mal. C'est pourquoi j'ai supplié la population de retourner à la maison. Je ne dis pas que nous n'avons pas de réponse satisfaisante parce que nous n'avons eu aucune réponse. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Maintenant, nous allons nous organiser et faire une réunion dans les enceintes de 160 hectares. Et ce que nous allons décider, nous allons l'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il puisse trancher. Mais nous avons peur parce que si les responsables à qui il a chargé cette question ne veulent pas nous accueillir, nous avons beaucoup d'inquiétudes.
Le directeur général de l'aménagement du territoire, quant à lui, tranquillise. Mais Diomède Daïké Ngolokiyé ne donne aucune précision concernant l'état d'avancement de ces dossiers. On l'écoute.
En résumé, le message a été transmis par nos supérieurs. Ce message est clair, ils vont chercher l'argent. Ils ont déjà dit que les processus sont en cours et bientôt, vous allez avoir votre argent. Cet endroit est considéré pour l'utilité publique. Donc, c'est un projet de l'État. Soyez patients.
La crise qui secoue le parti CNL s'inscrit dans la suite des plans de déstabilisation des partis de l'opposition du régime du CNDD-FDD. C'est ce qu'indique Chovino Mugwengezo, président du parti de l'opposition UPD de Gamibanga. Il le dit à la suite de la désignation d'une nouvelle responsable du parti CNL par un groupe de 10 membres dissidents pour renverser Agathon Rwasa. Mugwengezo fait savoir cependant que cela relève de la peur des autorités sur l'avenir de leur parti CNDD-FDD en perte de vitesse. Il appelle le ministère de l'Intérieur à cesser cette ingérence dans le fonctionnement des partis politiques.
J'inscris tout cela dans une droite ligne de politique de déstabilisation des partis politiques d'opposition par le pouvoir. Vous savez, quand un pouvoir est faible, il essaie un peu de se rattraper par-ci par-là, il peut s'éveiller, peur, panique, il peut diviser des gens, il peut tuer des gens, bref, tout cela pour s'imposer par la force. Et maintenant, ce qu'il est advenu aux partis politiques, notamment le parti CNL auquel on fait maintenant allusion, c'est le prolongement de cette politique-là. C'est un mode opératoire qui a été mis en place par le système CNDD pour s'assurer qu'il n'y a personne qui puisse jouer un rôle de contre-pouvoir. Il n'y a personne alors. En remontant, on va même trouver, après la cession du CNDD au pouvoir, parce qu'il y avait à l'intérieur une certaine force qui ne supportait pas, ils ont dû s'en débarrasser. Vint le tour du FNL, où le CNDD-FDD a récupéré une aile et la confia à Jacques Bigirimana Gwassa, restant avec l'écrasante majorité des membres de son parti. Mais non, ce qui est en train d'arriver maintenant au CNL n'est que le prolongement de ce qui s'est passé sur tous ces partis-là d'opposition qui représentaient un gabarit politique susceptible de déboulonner le système CNDD-FDD qui était encore au pouvoir. Ils oublient que Gwassa draine derrière lui une marque humaine capable de renverser ce pouvoir-là à travers les urnes. Sauf que Gwassa draine derrière lui tous les mécontents de ce pouvoir-là. Et maintenant que finalement la situation sociopolitique aujourd'hui est assez préoccupante, ils sont en train de donner raison à quiconque qui était dubitatif pour rejoindre, n'est-ce pas, ce camp qui est perçu comme une menace réelle contre le parti CNDD-FDD au pouvoir.
C'était Chovino Mugwengezo, président du parti UPD de Gamibanga. Une courte pause et on se retrouve pour parler économie.
Inzamba.
La ligne budgétaire de la présidence a augmenté de manière significative, atteignant une hausse de 50%. Selon Frédéric Vanvoguignon-Guidard, ancien vice-président de la République, cette augmentation exceptionnelle semble se diriger principalement vers les finances personnelles du président de la République, Évariste Ndayishimiye. Vanvoguignon-Guidard souligne qu'il existe des rubriques budgétaires au sein de la présidence qui ne nécessitent pas de rapport financier, ce qui aurait permis au président de doubler discrètement les allocations allouées à ces rubriques pour son propre enrichissement. On l'écoute.
Le CNR est un organe de police du chef de l'État. Ça veut dire que le budget utilisé là-bas, le chef de l'État y a un œil. Donc ça veut dire qu'il peut commander l'utilisation de l'argent sans qu'il y ait personne qui puisse justement dire ça ne peut pas marcher et sans qu'il y ait un contrôle quelque part. Et donc c'est l'argent du chef de l'État. Alors, pourquoi cette augmentation de 7 milliards? À mon avis, il peut y avoir une idée du chef de l'État du besoin de l'argent. Et au lieu de le trouver ailleurs, il fait augmenter le budget de la documentation, donc du renseignement. Et comme ça, il aura cet argent sans coup férir. Et le voyage officiel du président de chef de l'État, l'augmentation de 900 millions en dit long. Ça veut dire que le chef de l'État, en termes d'émission, il est prévu ce qu'on appelle la provision. La provision, c'est une bonne somme. Dans le temps, c'était 50 000 dollars. Peut avoir été augmenté, c'est possible. Mais cet argent vient de la Berbé et doit être utilisé au niveau, quand un président est en mission, peut être utilisé pour organiser des réceptions. Et en vue de recevoir l'autre le président pour qu'il puisse être à l'aise et négocier aisément pour l'intérêt du pays. Mais ces derniers jours, on a constaté que cet argent n'est pas utilisé, il est plutôt empoché, et au lieu de le remettre à la BRB, parce que la loi, le bon comportement, la pratique exige qu'une fois que cet argent n'est pas utilisé, il doit être remis à la BRB. Mais ces derniers jours, cet argent constitue plutôt une source d'enrichissement illicite.
Frédéric Vanvoguignon-Guidard révèle aussi que les dépenses liées au voyage du chef de l'État ne sont pas les seules à être prises en compte dans le budget. Des frais de mission attribués à son rôle de haut fonctionnaire viennent s'y ajouter. Il exprime des préoccupations quant à la destination de ces fonds. Ces observations soulèvent ainsi des questions importantes quant à la gestion financière au sein de la présidence. On l'écoute encore une fois.
En fait, en termes de mission, à côté de la provision du chef de l'État, il y a effectivement les frais de mission qu'on donne aussi au chef de l'État comme un haut fonctionnaire. Et donc ça veut dire qu'il a deux sources, la provision et les frais de mission. Maintenant, que cet argent ait été augmenté, et vous comprendrez que tout concourt à l'enrichissement d'une personne, donc le chef de l'État. Donc je crois que cette augmentation ne peut avoir d'autre justification que cela. Les gens peut-être diraient qu'il y a eu la dévaluation jusqu'à 47% possible, mais en réalité, ceci aussi peut justifier ce genre d'augmentation d'argent à la présidence. Sinon, pourquoi il y a d'autres lignes budgétaires au niveau de la présidence qui n'ont pas subi de modifications? Ici, ce sont des lignes où le président de la République peut justement se servir des lignes qui peuvent être utilisées directement par le président de la République. Augmentation de 50 millions, de 50 millions, de 50 millions. Comment justifier une même somme pour les mêmes lignes budgétaires? Je crois qu'on aurait besoin peut-être d'autres explications, mais ici, on ne les a pas. Donc, ce qui fait que je considère que c'est un budget, justement, qui puisse permettre au chef de l'État de s'enrichir.
Pour que le Burundi puisse atteindre le développement, il y a des préalables que le gouvernement doit mettre en œuvre. C'est notamment la non-ingérence dans les secteurs économiques du pays. Il doit connaître la limite dans son champ d'intervention et chercher des compétences, même étrangères, dans des domaines techniques. C'est ce que suggère Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Il l'a dit à l'occasion de la sortie d'un livret intitulé « Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 », un livret sur lequel le gouvernement peut s'appuyer pour atteindre ses objectifs. Suivez Faustin Dikoumana.
redéfinir le rôle des acteurs. Le gouvernement ne peut pas se considérer comme il va tout faire pour tout orchestrer, pour tout régenter. Il faut en même temps clarifier les missions des acteurs, le secteur privé, les institutions politiques, les ONG, la société civile, les confessions religieuses. Il faut la clarification de la mission de chaque acteur. Sinon, le gouvernement est bon à tout faire, fixer les prix, improviser dans tout et rien. Il faut quelque part voir là où l'État est efficace. Mettre sur le pied quand on est suivi à un mécanisme bien appuyé de produire des statistiques. Pour l'évaluation régulière, les statistiques aident à s'évaluer régulièrement. Même au niveau local, même au niveau central. On voit qu'ici au Burundi, l'usage des chiffres, vraiment est relégué au second plan. Il est rare dans la bouche de nos autorités entendre les évaluations qui se basent sur des statistiques fiables. Mettre sur pied un cadre institutionnel de mise en application de cette vision spéciale. On ne peut pas vouloir mettre en application la vision avec des structures classiques qui sont là. Ailleurs même, il faut on fait une mission spéciale ou un ministère spécial chargé de suivre la mise en application de la vision. Parce que la vision, c'est comme une date, un événement fatidique qui influence le destin d'un. Il faut la stratégie de mobilisation des ressources humaines compétentes. Même des cabinets d'experts étrangers peuvent être mis en contribution. Il ne faut pas toujours considérer que la nomination dans les postes doit être politisée. Non, il faut des experts. Au cas échéant, recourir à l'expertise étrangère. Il faut une stratégie de mobilisation des ressources financières dans un cadre de bonne gouvernance budgétaire. Quand un pays, par exemple, a un niveau de réserve de change, 2 mois, alors qu'au minimum est 4,5 mois, le pays manque cruellement des ressources. Même l'analyse de la structure budgétaire actuelle prouve qu'il y a des difficultés au niveau du financement budgétaire. Pour mettre en application les programmes de développement, il faut aussi une administration forte, professionnelle et politique. Tous les cadres d'administration qui deviennent des commerçants ici, là, le parti politique au pouvoir qui s'ingère et apprécient dans les affaires de l'administration. Le président de la République est en train de crier qui sera les cadres d'administration se donnent des privilèges dans le commerce ou partout dans les marchés publics. C'est parce que tout autre question est au plus haut niveau. On se dit parti. La logique, c'est de surpasser les hommes pour les récompenser. Pourquoi on ne parvient pas à différencier les postes politiques des postes techniques? Non. C'est un crime, il faut crever l'abcès.
C'est par cet éclairage de Faustin Dikoumana, expert économiste, que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.